J'aimerais vous remercier pour vos prières. Donc, le voyage s'est très bien passé. Donc, c'était bien d'avoir aussi quelques moments de vacances. Mais même en vacances, on peut continuer de proclamer la parole. Et donc, c'était rafraîchissant d'avoir une pause. Donc, aujourd'hui, j'aimerais considérer avec vous un passage. Dans Luc. Il s'agit de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Alors, ce sera les versets 21 à 40. Alors, tout d'abord, pour ceux qui sont belges, qui sont déjà dans le pays depuis un certain temps, le jeudi 2 février prochain, en Belgique, en France et aussi en Suisse romande, les gens vont manger des crêpes. Beaucoup vont le faire juste par tradition, sans vraiment savoir pourquoi et quelle est l'origine de cette coutume. Alors, selon certains, cette tradition remonterait au pape Gélase Ier, 492-496, donc de notre ère, qui offrait des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome pour célébrer la chandeleur, c'est-à-dire la fête des chandelles. À cette occasion, toutes les chandelles de la maison sont allumées et c'est le moment de défaire et de ranger toutes les décorations et les scènes de la nativité jusqu'à la prochaine fête de Noël. Et c'est aussi la dernière fête du cycle de Noël, parce que dans l'Église catholique, l'Église traditionnelle, il y a des cycles de fêtes. Mais on peut se poser la question, que fête-t-on en réalité à la chandeleur? Qui est-ce qui a déjà entendu parler de ce mot-là, chandeleur? Ok, d'accord. Donc, c'est les gens qui étaient catholiques qu'on comprenne. Surtout pour la nouvelle génération, ils ne savent pas ce que c'est. Et peut-être même à toute nouvelle génération, et quand on dit chandelle, ils demandent qu'est-ce que c'est. Alors, que fait-on en réalité à la chandeleur? Les païens fêtaient au mois de février le retour de la lumière, le retour de la lumière du printemps et aussi la purification. Et le mois de février, le mot février est dérivé du latin februare qui signifie purifier. Et ce verbe a donné le substantif februarius, février, c'est-à-dire février, le mois de la purification. Alors, l'Église catholique, pour combiner la fête de la lumière et la fête de la purification, eh bien, a inventé ou institué la chandeleur, fête des chandelles, qui correspond à la présentation de Jésus-Christ au temple et aussi à la purification de Marie, ce qu'on appelait autrefois les relevailles ou l'amaissement, c'est-à-dire le moment où la mère pouvait, qui avait accouché, pouvait revenir donc à l'église ou au temple. Alors, la chandeleur, les chandelles sont bénies par le prêtre pour éloigner le mal et rappeler que Christ est la lumière du monde. On apporte ensuite les chandelles au foyer afin de le protéger. Et les crêpes, eh bien, les crêpes avec leur forme ronde et leur couleur dorée sont censées rappeler le soleil, donc la lumière. La chandeleur tombe le 2 février, soit 40 jours après la Noël, ce qui correspond au 40e jour après la naissance d'un garçon, ou selon la tradition juive, basée sur Lévitique 13, versets 1 à 8, la mère pouvait se présenter au temple pour offrir un sacrifice pour sa purification. Donc après 40 jours après la naissance d'un garçon. Et après la naissance d'une fille, le délai était de 80 jours. Et donc, tout cela s'est basé sur le passage que nous avons cité tantôt, que nous allons lire, Luc, chapitre 2, versets 21 à 40, où il est question de la présentation de Jésus au temple. Lisons donc ce passage où Joseph et Marie amènent l'enfant Jésus au temple pour le présenter à l'Éternel et voyons quelles leçons nous pouvons en tirer aujourd'hui. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification, donc voyez le mot purification, prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus, étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Ce passage Le titre de notre message, je pourrais l'appeler la célébration des générations. Célébration de toutes les générations. Le premier point que j'aimerais tirer de ce passage est de dire que rien n'est fini. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Aussi longtemps que tu as le souffle de Dieu en toi, Dieu a un plan pour toi. S'il t'a laissé le souffle de vie, c'est-à-dire qu'il a un projet pour toi. Parce qu'au moment où tu as fini ton projet, eh bien, c'est fini. Mais tant que tu as le souffle de vie, eh bien, Dieu a un plan pour toi, il a un projet pour toi. Que dit Joël 2, verset 28? Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pas sur quelques-uns, mais je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Tout le monde est inclus. Dans ce passage, nous pouvons voir que bien que Siméon et Anne étaient très âgés, ils n'avaient jamais perdu espoir de voir le Messie promis. Pourtant, cela faisait longtemps, des centaines d'années, qu'on avait annoncé le Messie. Et il n'était pas venu. Mais Siméon et Anne, puisqu'ils marchaient en intimité avec le Seigneur, ils avaient reçu cette intime conviction qu'ils verraient le Messie de leur vivant. Et ils ont fait confiance à leur Seigneur, et malgré leur âge avancé, ils continuaient à servir fidèlement le Seigneur, et le Seigneur a honoré leur fidélité, il a honoré leur foi, et ils étaient parmi les premiers à voir et à reconnaître le Messie. N'est-ce pas extraordinaire? Donc, bien que vieux, eh bien Dieu avait un plan pour eux, et Dieu honore la fidélité de ses serviteurs et de ses servantes. Dieu a aussi un plan pour les vieux, les anciens, les seniors, les vieillards. C'est pourquoi il ordonne dans Lévitique 19, verset 32, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Un vieillard, c'est un jeune à qui Dieu a fait grâce de devenir vieux. La vieillesse n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. L'absence de vieillard dans une famille ou une nation est une malédiction. Regardons ensemble 1 Samuel 2, versets 31 à 32. Ça, c'est Dieu qui parle à Élie, le prêtre. Pas Élie le prophète, mais Élie le prêtre. Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillards chez toi. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tant qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta famille. À cause de la désobéissance d'Élie, Dieu dit, eh bien, il n'y aura plus de vieillard dans ta famille. Donc là, ça, c'est une malédiction. On peut comparer cela aussi avec Zacharie. Zacharie 8. Zacharie 8, verset 4. Zacharie 8, verset 4. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause de leur grand âge. Là, c'est une bénédiction. Il dit, des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore. Ici, il est question de la restauration de Jérusalem, lorsque Dieu va restaurer Jérusalem. Donc, il y aura des vieillards. Pour n'avoir pas écouté les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, eh bien, Roboam a souffert la division de son royaume. Hein, quand Roboam a succédé à son père Salomon, eh bien, il a demandé conseil pour savoir comment il fallait agir envers le peuple. Il a demandé conseil auprès des sages qui étaient les collaborateurs, les conseillers de Salomon. Et ils lui ont conseillé d'une certaine façon, mais il n'a pas voulu écouter. Il est allé consulter les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'ont conseillé d'une autre manière. Et Roboam a écouté donc les jeunes gens, et à la fin, le royaume était divisé. Dans Job 12, verset 12, il est dit, dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. Bien sûr, la sagesse ne vient pas nécessairement avec l'âge. Mais, comme je dis souvent, c'est comme le vin. Selon sa nature, c'est-à-dire selon qu'il est bon ou il est mauvais, selon qu'il est bon ou mauvais, plus il vieillit, eh bien, plus il devient meilleur ou pire. Donc, celui qui a une bonne nature, eh bien, il grandira meilleur. Job 12, verset 20 dit, « Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. » Donc, c'est-à-dire, celui qui marche avec Dieu, eh bien, il aura la sagesse. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, bien sûr, ce n'est pas la vieillesse qui lui donnera cette sagesse. Proverbe 17, verset 6, il est écrit, les enfants sont la couronne des vieillards. Et Proverbe 20, verset 29, la force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Tout cela pour dire que Dieu a aussi un plan pour ceux-là qui sont vieux, pour ceux-là qui sont âgés. Maintenant, le deuxième point de notre message est celui-ci. Le royaume de Dieu a une place pour toutes les générations et toutes les nations. Dans la présentation de Jésus au temple, que voyons-nous? Tout d'abord, c'est la célébration de l'enfance, avec tout son potentiel d'avenir. Jésus, l'enfant qu'on présente. Jésus, l'enfant, eh bien, qu'on va, tout d'abord, avant même la présentation, nous avons lu dans Luc, je vais relire le passage, comme ça vous voyez. Il dit, 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Donc après 8 jours après sa naissance, il a été circoncis selon la tradition. Et la circoncision, c'est le symbole d'une séparation avec le monde et d'une alliance avec Dieu comme lui appartenant. Donc cet enfant, eh bien, entre dans une alliance. Le deuxième élément avec l'enfance, verset 22, « Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux pigeons, ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Ici, il est fait référence à une tradition de racheter l'enfant, parce que chaque premier-né, eh bien, était considéré comme appartenant au Seigneur. Vous vous rappelez, lorsque Dieu, eh bien, a délivré Israël d'Égypte, hein, quelle était la dernière plaie? Eh bien, c'était que tous les premiers-nés d'Égypte étaient morts. Mais sauf les premiers-nés des Israélites, eh bien, ils étaient épargnés parce qu'ils avaient mis le sang sur les linteaux et les battants des portes. Et donc, depuis ce jour-là, Dieu avait dit, eh bien, vous me consacrez tous les premiers-nés. Mais maintenant, les premiers-nés seront rachetés par leurs parents et les premiers-nés seront remplacés par une tribu. Vous connaissez laquelle? Les Lévites. Hein? Donc les Lévites vont remplacer tous les premiers-nés. Et donc ici on voit donc le rachat de l'enfant premier-né, symbole d'une reconnaissance que l'enfant est un don de Dieu. L'enfant est un don de Dieu et appartient à Dieu. Donc c'est la célébration de l'enfance. Il y a aussi, non seulement la célébration de l'enfance, il y a aussi dans ce passage, je pourrais dire, la célébration de la jeunesse. Joseph et Marie, remplissant scrupuleusement les préceptes de la loi pour être en règle avec Dieu. C'est le symbole d'une jeunesse modèle qui donne gloire à Dieu par leur soumission. Et Dieu a besoin de tels jeunes. Puisqu'ils glorifient Dieu, Dieu les glorifie aussi. Et c'est pourquoi Marie sera appelée la femme bénie entre toutes les femmes, parce qu'elle était soumise à Dieu et ne s'est jamais plainte. On voit la célébration de l'enfance, la célébration de la jeunesse et la célébration de la vieillesse aussi avec Siméon et Anne, qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Ils ont gardé espoir et ils ont continué à servir Dieu avec persévérance sans se lamenter. Et puis, il y a la promesse de salut faite non pas pour une nation, mais pour toutes les nations, que nous pouvons lire toujours dans Luc 2. Et bien, qu'est-ce qu'il y a écrit? Maintenant, donc c'est Siméon qui parle. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer, non pas une nation, mais pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Donc on voit que Siméon avait la lucidité de voir que ce salut-là, ce n'était pas seulement pour Israël, mais c'était pour toutes les nations. En effet, Dieu est un Dieu qui ne fait pas de discrimination, mais qui a un plan pour tout un chacun. Dieu est un Dieu qui ne fait pas d'exclusion, qui ne fait pas de discrimination. Que toutes les générations et toutes les nations le célèbrent, car Dieu a un projet, un plan pour tout un chacun. Jésus nous dit qu'il est venu pour sauver, mais que Satan, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour diviser et détruire. Et c'est Satan qui divise les nations. Une nation se croit supérieure aux autres et s'arroge le droit, eh bien, de les envahir et de les asservir. Satan divise les hommes en races, soi-disant. Donc, ce qui donne la ségrégation raciale, l'apartheid. Satan divise les hommes en classes sociales ou même en castes, riches et pauvres, ouvriers et employés, etc. On a toutes sortes de catégorisations des hommes. Satan divise les hommes en tribus, Hutu contre Tutsi, etc. Il y a aussi la guerre des sexes, hommes et femmes. Hier, il y a une grande manifestation contre le sexisme de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis. Et donc voilà, Satan divise les hommes, mais Jésus, il est venu apporter la paix entre les hommes et aussi la paix entre les générations. Il y a une guerre des générations, les vieux qui écrasent les jeunes et les empêchent de s'épanouir, les vieux qui oublient qu'ils étaient aussi des jeunes. Et les jeunes aussi qui méprisent les vieux et qui oublient qu'ils sont tout doucement en train de vieillir. Les enfants qu'on méprise, à qui on dit de se taire parce qu'ils ne sont que des enfants. Ou encore les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents et qui font leur chagrin. Ou encore les enfants qu'on élève comme des dieux au-dessus des adultes, alors qu'ils ne sont que des enfants. Donc on voit que Satan crée des divisions, de toutes sortes, des divisions artificielles. Et dans ce passage, je vois une célébration de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les générations. Donc, qui que nous soyons ce matin, jeune ou vieux, peu importe la classe sociale ou que sais-je encore, ou que sais-je de catégorie, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et c'est ça le message de la présentation de Jésus au temple. Il y a l'enfant, il y a le jeune et il y a le vieux. Tout le monde. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que l'enfant qui respire loue l'Éternel. Il tirera la louange des enfants qui allaitent. Dieu a un plan pour chacun. Que personne ne soit méprisé dans la maison du Seigneur parce qu'il nous aime chacun d'un amour éternel, d'un amour extraordinaire. Louons le Seigneur, parce qu'il a un plan aussi pour nous. Et tant que ce n'est pas fini, rien n'est fini. Que le Seigneur vous bénisse.
Est-ce qu'on pourrait prier par rapport à cela? C'est vrai, l'Église, c'est vraiment l'endroit des générations.